Bonjour, soyez les bienvenus dans la bande originale avec Leïla Kadour-Boudedi, Thomas Wiesel, Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tout à l'heure Tanguy Passuro, Albert Algou est là également, et notre invité est Alexandra Lamy.
Non, c'est moi. Je triche.
Qu'est-ce qu'elle est belle.
Ah ouais.
Incroyable.
Resplendissante.
Même au réveil.
Je me suis maquillée depuis 5h du matin.
Alexandra, brillante.
Qu'est-ce qui se passe?
Brillante comédienne qui porte par instinct ce premier film de Nathalie Marchac qui sort ce mercredi. Alors, vous êtes tout sourire ce matin, ce qui n'est pas toujours le cas du sentiment que l'on peut avoir en voyant ce film qui parle d'un problème extrêmement précis, extrêmement concret.
Actuel.
Ouais, c'est ça. C'est la traite humaine faite par des voyous qui profitent de ceux qui veulent quitter l'Afrique noire, en l'occurrence dans le film, puisqu'elle est nigériane, l'héroïne, partir pour venir en Europe et passant par le Maroc. Et c'est là où vos chemins, vos routes vont se croiser. Deux femmes qui ont des destins totalement différents vont se croiser au Maroc. L'une tombe enceinte à la quarantaine d'années, brillante avocate, et elle tombe
miraculeusement enceinte, parce que ça fait très longtemps qu'elle essaye d'avoir un bébé.
Et l'autre, malheureusement, violée par l'un de ses passeurs, elle se retrouve enceinte alors qu'elle ne veut pas l'être. Et c'est là où l'instinct maternel rentre, mais il n'y a pas que l'instinct maternel, il y a l'instinct humain également dans ce film, avec cette traite humaine, dont nous parlons d'ailleurs tout à l'heure, je tiens à le dire, avec Cécile Rio-Battista.
Avec un passeur que nous
recevons. Non, Cécile. J'aimerais bien le recevoir pour le passer lui aussi, mais... À tabac. Non, c'est Cécile Rio-Battista qui fait partie de la Commission nationale des droits de l'homme qui viendra nous en parler. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'instinct maternel dans ce film. Il est là, évidemment, mais il n'y a pas que ça.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est ça. Il y a une image que j'aime beaucoup dans le film et qui raconte tout, parce qu'effectivement, c'est sur un fond donc de trafic humain. Et c'est ces deux femmes. Il y a une image que j'aime beaucoup dans le film qui est dans la chambre d'hôpital, où on est toutes les deux, une vue par au-dessus, avec toutes les deux dans notre lit d'hôpital.
Et
avec le bébé au milieu. Et effectivement, avec chacune, une, donc mon personnage qui rêve effectivement d'avoir un enfant, qui enfin, après plusieurs années, a réussi à tomber enceinte, et puis finalement le père, et donc rêve d'avoir un enfant, et l'autre qui effectivement n'en veut absolument pas, et toutes les deux vont se retrouver finalement, surtout mon personnage, à se battre pour essayer de les aider, d'abord le bébé, et puis effectivement la jeune femme aussi. Donc voilà, c'est un beau parcours de femme.
Ouais, c'est très très émouvant, parce que justement quand vous parlez de cette scène-là, moi c'est aussi un plan qui m'a beaucoup marqué, parce que votre personnage arrive à l'hôpital, vous venez de faire une fausse couche, on peut le dire.
Oui, bien sûr.
Et vous vous retrouvez à côté d'une femme qui vient d'accoucher, et c'est la pire douleur qu'on puisse vous imposer à vous, c'est d'être premier témoin de la joie d'une autre. Or la joie n'est pas présente. Et c'est un peu...
Non, parce que c'est l'enfant d'un viol.
C'est l'enfant d'un viol, et c'est aussi cette histoire entre l'Occident, ces pays qui vivent dans une certaine opulence, le personnage que vous incarnez d'une certaine manière, et puis cette jeune fille qui est là et dont le destin est complètement foutu d'une certaine façon, parce que on a la sensation qu'elle ne peut aller nulle part, qu'elle sera rejetée partout, abusée. Elle est abusée à de nombreuses reprises dans ce film, pas forcément physiquement, mais par tous ces gens-là.
Manipulée, exploitée, puis c'est une valeur marchande, cette Nigériane, puisqu'elle est, destinée à la prostitution, avec en plus le fait qu'elle ne soit plus vierge, donc
vierge.
Elle perd de la valeur, entre
pour
guillemets.
Pour être vendue. Elle a été elle-même vendue par son père
et
son cousin aussi. Et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'on passe pas, on n'est pas que dans le bon sentiment. C'est-à-dire que votre personnage aurait pu être seulement tenté d'aider cette jeune fille. Or, initialement, votre personnage a envie de ce bébé.
Exactement. Mais c'est ça que j'adore.
C'est ça qui est important.
Mais oui, puis c'est très humain. C'est-à-dire que cette femme qui est, mon personnage, donc qui est plutôt une femme d'affaires, avocate d'affaires, qu'on sent presque un peu sans affect. Et puis, je dis ça parce que...
Et qui est dure en affaires, d'ailleurs.
Voilà, et qui est assez dure en affaires. Et qui s'est en plus battue pour avoir un enfant, qu'elle a eu du mal. Donc elle a quelque chose d'assez froid, je trouve. Ouais. Et d'un coup, quand elle se retrouve face à cet enfant, elle qui est une femme de loi, d'un coup, effectivement, je trouve que le titre correspond extrêmement bien, par instinct. C'est-à-dire, instinctivement, elle devient humaine, j'allais dire, et finalement les lois, elle s'en fout un petit peu à ce moment-là, parce qu'il y a un enfant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, effectivement, et ça, moi, je trouve ça terriblement humain, c'est-à-dire que Évidemment qu'elle a envie d'aider cet enfant parce que c'est son rêve d'en avoir un. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement égoïste. Mais moi, c'est ça qui me plaît aussi chez des personnages. C'est ça qui les rend humains. Parce que si c'est des personnages qui sont juste tout simplement lisses et donc elle va essayer évidemment de tout faire pour ce bébé. Et puis évidemment, elle a un côté aussi maternel avec cette femme-là parce que elle aussi, elle la considère presque comme son enfant aussi. Et donc, elle va aider effectivement les deux femmes. Enfin, les deux femmes. Cette femme-là
et le bébé qui est une fille en l'occurrence.
Complètement.
C'est vrai qu'on parle de l'instinct maternel, mais il y a aussi beaucoup de réflexion et j'irais de pragmatisme de la part de cette avocate, parce qu'elle pourrait aussi, sur un coup de folie, elle a deux, trois occasions, prendre le bébé, partir avec ce bébé. Et,
dans un panier.
Voilà.
Ouais, complètement. Mais elle y pense. On le sent qu'elle y pense. Évidemment qu'elle y pense. Mais c'est encore une fois, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que j'aime bien justement, c'est ça que je trouve intéressant dans les personnages, c'est quand ils sont pas que d'une seule couleur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est humain. Oui, bien sûr, à un moment donné, elle a envie, parce que parfois on me dit, oui, mais cette femme blanche qui veut prendre ce bébé. Oui, bien sûr, c'est dur, mais c'est une réalité. Elle en rêve. Elle pourrait. Elle peut. Et forcément, cette idée.
Il s'avère qu'on peut aller à l'étranger adopter un petit enfant. Il s'avère qu'on peut aller adopter à l'étranger un enfant souvent de couleur, parce que c'est plus simple de le faire à l'étranger que de le faire en France.
Donc, exactement.
Je trouve que ce qui est important, voilà, dans le scénario, voilà, la réalisatrice, en tout cas, le scénariste ne passe pas à côté de ça, de cette tentation humaine. Et puis, tous les personnages féminins ne sont pas des personnages bienfaisants. Et ça aussi, je trouve que c'est bien de pas juste se dire, voilà, s'il y a un bébé, l'instinct maternelle va faire qu'elles vont être toutes positives, ben non. Il s'avère que souvent les plus grandes opposantes de ces femmes-là, de deux femmes que vous incarnez, eh bien c'est aussi des femmes.
Oui, exactement, tout à fait.
Alors la réalisatrice, justement, parlons-en, parce que c'est un premier long-métrage avec un esthétisme et un soin sur l'image, sur la couleur, dans cette... On est au Maroc avec des... j'allais dire presque des images de cartes postales, mais qui dénotent dans leur beauté avec la dureté de la vie ou de l'épreuve vécue par ces femmes. Et puis elle aime beaucoup les flous aussi, elle aime beaucoup le changer de point et justement...
Comme les situations.
Ouais, exactement. Exactement. Comme l'héroïne peut être elle-même dans un flou, savoir exactement.
C'est une erreur de manipulation.
Ça arrive aussi. On avait un mec qui était pas très bon.
Elle bougeait, était pas nette.
Non, mais le focus, c'est ça. Le focus, on fait quoi? On le fait sur la première chose que l'on voit là au premier plan, ou est-ce qu'on joue avec la profondeur de champ? Est-ce qu'on va voir ce qui va plus loin? En tout cas, cette réalisation est extrêmement bien léchée. On est sur des histoires.
D'ailleurs,
qui...
oui. Et d'ailleurs, je dis aussi le chef opérateur. Aussi qui est David, qui avait fait aussi les combattants et qui
David
a été formidable.
Caillé,
parce que voilà,
ça.
Exactement, parce que tous les deux ils ont été ils ont travaillé ensemble vraiment pour ce film là et c'est vrai qu'avec Nathalie, juste pour dire entre parenthèses, mais c'est vrai que on a été extrêmement émus lors du premier jour de tournage, parce que avec Nathalie, en fait, on se connaît depuis à peu près 8 ans. On s'était vu sur un stage pour l'écriture d'un scénario.
Une masterclass,
exactement.
Comment tu pourras écrire, toi,
tu pourras écrire toi ton film.
C'est une information pour savoir déjà qu'Alexandra veut écrire son film.
Et donc on s'est rencontrés et puis elle toutes les deux, puis elle m'a dit, voilà, j'ai un scénario, est-ce que tu voudrais le lire? Mais on se connaissait absolument pas. Je lui ai dit, bah oui, bien sûr. Et c'est vrai que moi je m'attendais à une comédie ou un truc un peu léger, et j'ai eu ce scénario dans les mains. Je me suis dit, non, pour une première écriture, cool. La femme.
Ouais.
Pas mal quand même.
Et puis en plus, c'est malheureusement actuel. C'est-à-dire qu'on on voit ça aussi. Évidemment, c'est une fiction, mais on se dit, ça pourrait être issu d'une histoire vraie ou de plusieurs histoires vraies mélangées. On sent qu'elle a travaillé aussi, qu'elle a étayé son sujet pour savoir exactement comment ça se passe.
Oui, complètement. Et puis en plus, ça vient aussi d'une expérience.
À cette manière de se tenir la ceinture et d'avancer. Les migrants font comme une espèce de chenille pour se tenir les uns les autres. Sauf que c'est pas
le
du tout
le sens.
C'est
pas voilà.
Mais c'est vrai que Nathalie, elle a eu cette situation-là, effectivement, où elle s'est retrouvée dans cette situation-là. On lui a mis un bébé dans les mains. Donc Nathalie, elle est réalisatrice. Donc c'est pour ça qu'elle s'est dit à partir de là qu'elle aimerait faire un film de ça. Et donc pendant des années, elle a essayé de le monter. C'était pas facile parce que elle n'avait jamais rien fait. Et moi, mon nom, à l'époque,
était assimilé à une comédie plutôt qu'à un drame.
Pour ce genre de film, c'était un peu compliqué de le monter. Et au bout de 3-4 ans, j'ai dit à Nathalie, écoute, ton film est formidable. Trouve peut-être une comédienne qui pourra porter ce film-là et qui pourra le monter.
Ah, vous faisiez le sacrifice du rôle pour le projet.
Parce que c'est important, l'histoire. Et puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle se battait. Donc à un moment donné, il fallait que ce film se fasse. Et puis surtout pour elle. Et puis
donc vous avez tout fait pour refuser ce rôle, mais.
Mais voilà. Et en fait, juste avant de raccrocher, je lui dis, mais tu verras. pas, tu seras obligé de m'appeler, tu verras que ça sera moi qui ferai le rôle. Et effectivement, quelques années après, j'ai eu mon nom qui a changé et on a pu effectivement finalement monter ce film-là.
Non, mais vous le portez formidablement bien.
Et le premier jour du tournage,
on était
effectivement très émus de, enfin, au bout de 8 ans, de faire ce film-là.
Et à 2 jours de la sortie, j'imagine que cette émotion est encore plus forte avec la maternité qui flotte. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est un film avec des femmes devant ou derrière la caméra que c'est un film réservé aux femmes, loin de là.
Ah oui, loin de là, oui.
Loin de là, on est tous concernés par cette histoire et par d'abord le problème de ce que vivent les migrants, de la manière dont ils sont totalement exploités avec cette traite humaine. Et puis il y a Bruno Todeschini qui est le futur papa de votre bébé aussi, qui, on va dire, qu'il y a un petit sentiment de culpabilité, parce que devait-elle ou pas partir en voyage étant à peine enceinte, ayant eu du mal à être enceinte? Est-ce que cette fausse couche est due ou pas au voyage? Ce que des questions où beaucoup de couples peuvent se poser la question. Quand il y a une fausse couche, on ne sait jamais d'où vient la responsabilité.
Ouais, complètement. Et vraiment, je vois.
Et les mecs n'ont pas non plus le mauvais rôle dans ce film. Enfin, tout...
Oui, non, pas du tout. Au contraire, c'est pour ça que c'est toujours marrant, parce qu'on dit c'est un film de femmes. En fait, on ne dit pas sur les trucs c'est un film d'hommes.
C'est vrai.
Alors que là, pas du tout. Au contraire.
Un film de
mecs. Ouais, voilà, oui. Alors un film de mecs. Ça sent la baston. Ça sent la bagarre, quoi.
Non, mais ça pose aussi la question de votre personnage qui a une 40aine d'années, qui a pas fait d'enfant plus tôt, parce que
le boulot, sûrement,
sans doute, on
sait pas.
Oui, puis parce que parfois
ça marchait pas.
Puis parce que c'est difficile.
Parce que c'est pas facile, parce qu'elle avait peut-être pas rencontré l'homme de sa vie avant, donc on sait pas. Mais en tout cas, c'est aussi ça pose des personnages qui sont dans le réel. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que ça pourrait nous arriver à chacun d'entre nous.
Tout à fait, exactement.
Ça s'appelle Par Instinct, ce mercredi 15, donc sortie de ce film. J'espère, Jean-Dominique Besnard, que vous avez bien compris pourquoi Alexandra Lamy était notre invitée.
Salut Nagui, salut Alexandra. Salut les chômeuses.
Salut.
Alors mon cher Nagui, ok, je ne suis que le cousin de Dominique Besnard, l'ex-coach des stars, mais quand même, il ne faut pas pousser. Encore si j'étais qu'une imitation stupide et fastoche de Dominique.
Ça serait.
Oui, vous savez, du genre auquel ça donne votre super copain, là, comment il s'appelle déjà?
Albert, quel talent.
Quel purge celui-là, je peux pas le saquer, il est nage. Et physiquement, c'est vraiment pas mon style, hein. Qu'est-ce qu'il est moche. Bon, donc si j'étais une imitation, là, je m'écraserais. Mais en tant qu'orthophoniste des acteurs et des actrices, je me sens légitime de juger leurs prestations scéniques ou cinématographiques. Et je peux vous dire qu'Alexandra Lamy, elle assure, dans Par Instinct, dans le rôle de Lucie, elle est sans sas, elle m'a scotché. En pleine séance, je me suis mis à chialer, c'est un français.
C'est pas compris, on comprend pas, monsieur, on comprend pas.
Moi, je me comprends. Oui. Alexandra m'a bouleversé. Franchement, Nagui, je ne sais pas pourquoi ce matin vous étiez dans un état.
Quoi?
Mais dans un état,
mais
quand vous avez appris que Par Instinct, c'était pas une comédie. Je vous cite. Alexandra,
une minute avant l'émission.
Oui, une minute trente à la rigueur, maximum. Alexandra Lamy, si je l'invite ici, c'est pour qu'on se marre. Je veux pas qu'il nous fasse chialer. Faut annuler sa visite, faire venir sa sœur, Audrey. Avec elle, ça sera plus fun. Alors, s'approchant de Nagui, JNB, le rédacteur chef, la bande originale, enfin, qui je veux originale, qui avait pris la précaution de revêtir une tenue complète de gardien de but de hockey sur glace, on sait jamais, alors chuchoté. Impossible, maître. Vous entrez en studio dans 5 minutes. Ok, je vais assurer en disant que dans Par Instinct, Alexandra a un jeu d'une justesse extraordinaire d'émotion. Quant à Jean-Dominique Besnard, je compte sur lui pour passer la pommade. Alors, vos désirs sont des ordres, mon cher Nagui. Je vous propose de vous chauffer les larynx avec un petit exercice d'orthophonie très, très rapide. Alexandra va répéter la phrase suivante et vous la répéterez après.
Hein, mais pourquoi ça tombe sur moi?
C'est bien en même temps. Oh là là, j'ai peur.
Pour la maîtrise. Allez-y.
Pruneau cuit, cru.
Mais plus vite.
Pruneau cuit, pruneau cru.
Tu veux que je dise tout de suite Pino? Non. Pruneau cuit, pruneau cru.
Pino.
Ah ouais.
Bon, c'est pas trop mal.
Bonne émission. Heureusement qu'Alexandra l'a mieux fait. Merci, Jean-Yves. Allez, à vous.
Nagui sur France Inter.
Oui, bien autre tiraillement aussi pour cette femme avocate que vous incarnez, Alexandra Lamy, c'est que elle est justement avocate et qu'une avocate ne détourne pas la loi, ne triche pas avec la loi, ne fait pas passer des personnes sans avoir un passeport valide. Et c'est aussi un tiraillement personnel. Il n'est pas que sentimental avec ce bébé.
Oui, complètement. Oui, c'est pour ça que je
enfreindre la loi.
Enfreindre la loi. Surtout elle, évidemment, avocate, et on sent vraiment avocate d'affaires, qui effectivement va se dire bon bah tant pis. Voilà, elle redevient humaine, elle oublie les lois, évidemment. Et donc elle va tout faire pour sortir cet enfant, et peu importe. C'est pour ça que j'aime bien ce côté instinctif.
Il y a des chiffres qui nous font froid dans le dos quand même. L'OMS dénombre chaque année 80 millions de grossesses non désirées, dont 45 millions donnent lieu à une interruption volontaire de grossesse, qui malheureusement implique, pour conséquence, 70 000 décès. 97% de ces décès sont enregistrés dans les pays en développement. 16 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, c'est encore des bébés, ouais. On est d'accord, ouais, et quelques 1 million de jeunes filles âgées de moins de 15 ans mettent au monde des enfants chaque année. Ce sont des chiffres qui font véritablement froid dans le dos, et on ne parle pas de chiffres d'il y a plusieurs siècles, hein. C'est en ce moment, chaque année, 3 millions de jeunes filles entre 15 et 19 ans subissent des avortements à risque. Ça fait partie de quelques scènes aussi qu'il y a dans le film. Alors je rassure tout le monde, ce sont des scènes émouvantes, psychologiquement émouvantes, mais il y a toujours une pudeur dans la manière dont c'est filmé.
Oui, oui, bien sûr.
Et c'est un film qui peut être présenté notamment aux adolescents. Je pense qu'il y a une vraie valeur éducative justement à emmener aussi des enfants voir ce film pour savoir
tout à fait
ce qui se passe.
Oui, parce que comme vous dites,
malheureusement ça se passe.
Ça se passe, et comme vous disiez très justement, je veux dire, il y a de la pudeur, il n'y a rien de violent à l'image, c'est juste un ressenti, mais c'est oui.
Et puis il y a toutes ces formes d'esclavage aussi dont nous parlerons tout à l'heure avec Cécile Rioux-Battista. Ce rôle, comme vous le dites, vous l'avez en tête, vous en avez entendu parler depuis pratiquement 8 ans. Est-ce que comment on se prépare à ce genre de film?
Déjà, je voulais, étant donné, moi je parle très très vite dans la vie, donc déjà je voulais que mon personnage, très très vite, je voulais que mon personnage évidemment ralentisse un petit peu pour lui donner un peu plus de, qu'elle soit un peu plus rassurante, en tout cas plus d'assurance.
Il y a même des moments de silence.
Oui, oui, complètement. C'est pas quelqu'un qui parle pour rien dire, comme moi dans la vie par exemple. Mais, donc voilà des choses comme ça. Et après,
je m'attendais à une vanne sur ma pomme, mais c'est pas arrivé. Je m'en rends, t'es pas enfant.
Je crois que tout le monde est au courant.
J'allais te laisser dire.
Qui serait plus au club, okay.
La parano.
Et puis effectivement le personnage de Lucie, donc mon personnage sur le problème de la maternité, de pas pouvoir tomber enceinte, moi c'était quelque chose qui m'a beaucoup touchée, puisque si on a 10 ans d'écart avec ma sœur, c'est parce que ma maman a eu du mal à avoir un enfant entre nous deux, ouais. et j'ai des souvenirs comme ça de ma mère rentrant et donc ayant perdu des bébés en étant enceinte, de grossesse extrêmement dur, parce que pour une femme, donc je me retrouvais, je me voyais très bien ma mère à travers ce personnage-là, et la douleur que c'est pour une femme de tout faire pour avoir un enfant.
Donc vous êtes
enfant.
Plutôt à l'épuiser dans une expérience personnelle, voire familiale, que dans de la documentation ou...
Après je vois, mais je l'ai tellement vécu moi pendant ces 10 ans-là, et c'est vrai que...
Ou des reportages, ou des docs, ou des témoignages, ou des livres, ou des...
Forcément, je l'ai regardé, mais je l'ai vraiment vu par... avec en plus des yeux de petite fille, de voir sa maman qui a un petit ventre rond et qui revient et il n'y a plus rien et elle est en larmes, qui c'est se jette sur le lit, c'est quelque chose qui m'a...
Qui vous a touché personnellement.
Ouais, et l'arrivée de ma sœur, je vais vous dire, on a failli l'appeler Désirée, hein, tellement on avait... c'était horrible, ça a failli, hein. J'ai dit, ah non, ça c'est pas possible, en fait. Mais elle était... l'arrivée de ma sœur, pour tout le monde, c'était... on était extrêmement touchés, donc je comprends... Voilà, ce personnage-là aussi me touchait par rapport à...
C'est le deuxième prénom de Nagui, hein.
Désirée.
Non, je crois que c'est Modeste.
Ah, voilà, okay. Tu t'inquiétais, ça vient.
Ça y est, ils se sont réveillés, les deux vieux. Les deux vieux du Muppet Show, ils sont debout, là. C'est bon, on peut y aller.
Eh, vas-y, Peggy, enchaîne.
Par instinct, le film sortira ce mercredi 15 novembre, réalisé par Nathalie Marchac avec Alexandra Lamy. Mais pas que, ai-je envie de dire, il faut quand même saluer Sonja Vanda, qui joue Beauty, le deuxième rôle principal de ce film, à part Amma, qui est le bébé.
Quelle beauté, en vrai. C'est un mannequin.
Pardon,
oui. Elle est mannequin.
Ah ouais, elle est complètement mannequin, c'est pas possible autrement.
Oui, complètement. Oui, elle est top modèle, etc. Ouais. C'est une...
Excuse-moi, quelle est l'expression? Elle est complètement mannequin. C'est une mannequin moitié.
Non, mais elle a les genoux.
Elle a les pieds dégueulasses.
Elle est pas mannequin main. Elle est pas mannequin main, si tu veux.
Moitié mannequin, c'est un mannequin hémiplégique.
Oh non! Non!
non, il faut dire les choses.
Hein. Non, bah oui, mais pas celle-là.
Non, mais tu vois bien qu'elle est pas mannequin main, elle est pas mannequin pied, quoi.
Non, elle est voilà. Complètement mannequin. Effectivement, c'est vraiment battue pour avoir ce personnage-là, parce qu'en plus pour elle, ça lui a, voilà, elle a de sa vie personnelle, elle est soudanaise et donc elle a fui avec sa maman et sa sœur le Soudan, s'est retrouvée dans les camps de réfugiés, etc. Donc elle était effectivement, elle a vraiment tout fait pour avoir ce rôle-là et elle s'est battue formidablement parce qu'elle l'a jamais tourné, elle a jamais rien fait. Et avec Sonia, avec Nathalie, la réalisatrice, toutes les deux, elles ont vraiment travaillé main dans la main. C'est-à-dire que vraiment, même Nathalie n'avait pas peur de la bousculer. Et Sonia lui disait, mais vas-y, n'aie pas peur, bouscule-moi, je suis pas comédienne, donc il faut que je sorte.
Père Albert.
Exactement. Et elle est formidable, effectivement, dans le film, et on peut en être très, très fiers.
C'est une réussite. Ça sera donc ce mercredi 15 novembre. On en parlera encore avec Cécile Rubattista donc de cette traite, parce qu'il y a des images qui sont d'une violence et qui sont la réalité. Et encore, ça reste j'ai envie de dire du cinéma, parce qu'on dit bon, ils se font frapper pour de faux, mais malheureusement, la réalité de personnes qui cotisent, qui réussissent à économiser des sommes de l'ordre de 2000 ou 3000 dollars pour pouvoir espérer passer dans un pays européen et qui se font voler cet argent, puis violer, puis frapper. Ouais, ce sont des histoires vraies, c'est pas de la fiction. C'est une toile de fond qui est bouleversante aussi. Par instinct, sortie ce mercredi. À suivre dans la bande originale les dates importantes que l'on a qualifiées ainsi dans la carrière d'Alexandra Lamy, que l'on a mise en musique. Mais d'abord, voici l'humeur de Thomas Wiesel face à la Suisse. La bande originale. Ça va, Thomas?
Oui, ça va, merci beaucoup, Nagui. Nagui, je vous ai écouté sur France Inter avec tous les autres la semaine passée. Vous étiez dégoûté par les Paradise Papers. Et ben, moi aussi, j'étais dégoûté. Enfin, j'étais pas dégoûté de découvrir que les riches et les impôts, c'est un peu comme Depardieu et le sport, ou Patrice Evra et le fair play, ou Christine Angot et la joie. Ça, vous le savez. Non, en tant que Suisse, moi, j'étais dégoûté de découvrir que plus personne planque son fric chez nous.
Ah oui, c'est ça. Non, il y a plus personne. Ils vont ailleurs.
Ouais. Non, j'avais l'impression de tomber sur le profil Facebook de mon ex et de voir qu'elle batifole avec plein de nouveaux mecs aux Caraïbes en plus. Et ça, j'ai parcouru des milliers de pages. Il y a rien sur la Suisse. J'ai honte, Nagui. Heureusement que Tariq Ramadan est suisse, comme ça on parle quand même un peu de nous. Non, mais il y a rien. En plus, les Paradise Papers, les documents, ils ont été remis au journal allemand, la Süddeutsche Zeitung. Donc les temps ont bien changé. Maintenant, balancer des noms aux Allemands, c'est bien vu. Je comprends plus rien. Non. Parce que ça aussi, on le faisait avant tout le monde, je veux dire. Et puis maintenant, c'est quoi? Malte, les Bahamas, Antigua et Barbude. Mais c'est qui ces losers? Antigua et Barbude, on dirait des personnages de Zola, quoi. Planquer du fric en Suisse, on a inventé le jeu, puis maintenant, on se fait défoncer. C'est comme les Anglais avec le foot ou les Français avec le tennis. Ah non, vous avez pas inventé, vous faites juste défoncer, ça. Okay.
Salut.
Non, mais en Suisse, on a été cons. On a fait l'erreur de croire vos présidents, en fait. Parce qu'en 2009, Nicolas Sarkozy, il a dit les paradis fiscaux, c'est terminé. Puis là, en Suisse, on a dit, bon, ok, on va jouer réglo. Maintenant, quand Sarkozy dit quelque chose, tu peux mettre ta main à couper qui va le faire. Bon, il avait aussi promis l'égalité salariale, de baisser les impôts, le plein emploi, de se retirer de la politique définitivement en 2012, d'augmenter, enfin, bref, une promesse de Sarkozy, on aurait dû se méfier, déjà. Mais après, en 2013, François Hollande, il a dit, moi, je veux éradiquer les paradis fiscaux. Et là, nous, les Suisses, on s'est dit, bah, Hollande, il promet quelque chose, ça a bardé. Alors qu'à ce moment-là, vous, les Français, vous saviez déjà que Hollande, c'était la même efficacité que Joule devant des mots fléchés. Hein, si Hollande décide de lutter contre un truc, tu peux être sûr que c'est le truc qui va gagner. Hein. Hollande, il a dit, mon ennemi, c'est la finance, et le prochain président, c'est un ancien banquier de chez Rothschild. Si Hollande, il dit, je vais éradiquer les cigarettes, faut acheter des actions Marlboro directement. Hein. Donc lui, il a dit, je vais éradiquer les paradis fiscaux, puis après, il est allé chez Julie Gayet, il a un peu oublié. Et apparemment, tout le monde l'a ignoré, sauf les Suisses. Hein. C'est déprimant. Nous, le seul qui est assez con pour continuer de planquer son fric chez nous, c'est Cahuzac. Et imagine les stars qui payent encore des impôts, ils doivent se sentir tellement débiles. Tu payes des impôts, toi, Nagui?
Bien sûr.
Mais t'es con. Tu te prends pour Mère Teresa, quoi. Défiscalise, délocalise, optimise, florent-panise, Nagui. Bon, florent-panise doit pas se sentir malin non plus en lisant les Paradise Papers. Lui, c'est emmerdé pour rien. Il a déménagé au Portugal, il bouffe de la morue, il prend des cours de portugais. Liberté de penser, libertad, de pensamiento. Florent-panise, tout ce qu'il économise en impôts, il dépense en déménagement. Il a pas compris qu'il pouvait envoyer son fric à l'étranger, mais rester ici. Et surtout, que personne lui dise, hein, ça nous fait des vacances. Non. Moi, j'ai vu des appels au boycott. Des appels au boycott des personnes, des entreprises, des pays qui sont impliqués. Bah moi, je voulais faire ça aussi par patriotisme. Mais il y a des boycotts, c'est plus facile que d'autres. Shakira, ok, je veux bien boycotter, ça va pas me manquer. Waka Waka, Barbuda, là, c'est bon. Non, mais comment est-ce que tu organises un boycott de Dassault, Nagui? Faut que les gens, quand ils vont faire leurs courses, ils arrêtent d'acheter des avions de chasse Dassault. Moi, je sais pas faire ça. Puis je sais, hein, l'optimisation fiscale, c'est légal. Mais si c'est légal, pourquoi ils se cachent tous pour le faire? Non. Moi, quand je vais acheter mon pain à la boulangerie, je mets pas une cagoule. Non, c'est uniquement légal parce que les multinationales et les grosses fortunes, ils ont fait pression pour passer des lois pour rendre ça légal. Puis maintenant, comme ça, quand on les chope, ils disent, ah mais non, c'est légal. Mais non, c'est légal, mais c'est dégueulasse. C'est comme le riz au lait, c'est légal. mais c'est dégueulasse. Oui, moi, non, il était temps que ça se sache. Hein. Moi, je m'en fous de me fâcher avec le lobby du Riolet. Moi, je suis un ouf. Non, et vous avez vu, il y a même Harvey Weinstein dans les Paradise Papers.
Non.
Oui. Oh, ça va commencer à faire beaucoup pour lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre
sur lui la
semaine
prochaine? Peut-être qu'il va tomber que pour ça, si
ouais,
ça
ouais, bah, non, mais la semaine prochaine, on nous dit qu'il télécharge de la musique. Moi, je suis sûr qu'il prend le métro sans ticket, Harvey Weinstein. Faut qu'il arrête. D'ailleurs, il y a un point commun pour moi entre les agresseurs de Balance ton porc et les escrocs, les optimisateurs des Paradise Papers, c'est que tant qu'ils croient qu'ils peuvent le faire en toute impunité, bah, ils continueront. Donc, il faut s'indigner. Hashtag balance ton or. Ou alors ils peuvent revenir en Suisse le faire chez nous.
Ah, c'est ça, ça, ouais, c'est ça, ça voilà. Te manquait. Merci Thomas Wiesel.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Alexandra Lamy, justement, on vous a pas entendu vous exprimer sur les affaires de
fiscaux.
Non, de harcèlement dans le
discrétion,
monde du harcèlement dans le monde du cinéma où on se dit que être comédienne, on entend souvent d'ailleurs les comédiennes en tout bien tout honneur dire que c'est une histoire de désir le cinéma ou ce milieu où on ne peut rien faire seul et donc c'est une réalisatrice comme Nathalie Marchac ou un réalisateur qui doit désirer une comédienne pour un rôle et la frontière entre le désir et le harcèlement est souvent oublié par ces fameux gros porcs dont parlait Thomas Wiesel.
J'ai pas aimé quand t'as dit ces fameux gros porcs, hein, que t'as tout dit.
Dont t'as parlé, Thomas Wiesel.
T'as bien fait finir ta phrase, merci.
Non, mais c'est... je me suis un petit peu exprimée là-dessus, parce que d'abord, je trouve extrêmement courageux que ces femmes-là parlent, parce que ça fait des milliers d'années, j'ai l'impression que les femmes n'osent pas parler, parce qu'on s'est bizarrement presque habitués à ne plus dire qu'on se faisait... Parce que je pense que, honnêtement, même si on sait, je crois qu'il y a 44% de femmes en France qui subissent un harcèlement sexuel et moral, je crois que c'est 60% en Espagne, ce qui est quand même assez énorme. Ouais. Ça fait pratiquement une femme sur deux. Et je pense qu'il y a 100% de femmes qui pourraient raconter quelque chose.
Toutes subies.
Mais toutes. Honnêtement, moi je sais que même quand j'ai démarré, de faux réalisateurs, de faux producteurs qui te disent avec cette fameuse phrase, viens, tu sais, dans le film, il y a un moment donné, il y a un nu, ça serait bien qu'on te voit. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on a plein de fois, qu'on a essayé évidemment de façon... Voilà. Mais c'est vrai que donc je trouve extrêmement courageux que ces femmes-là parlent. Mais ce qui me fait juste un tout petit peu peur, c'est-à-dire que comme je sais, parce que forcément toutes les femmes, on est toutes touchées par ça et on a toutes envie de parler. Ce que j'espère, c'est que comme tout le monde parle, ça ne fasse pas l'effet inverse où d'un coup les gens commencent à se dire oh là, qu'est-ce qu'elles ont les gonzesses, là, nous font des guerres des sexes, etc. Alors que pas du tout. Au contraire, c'est pas du tout des guerres des sexes. Au contraire. Et juste ce qui m'ennuie, c'est que les hommes qui sont comme ça, tous ces harceleurs, tous ces salauds qui sont des abus de pouvoir ne changeront pas. Et tous ceux qui ont déjà une timidité énorme pour venir nous draguer ne nous draguent plus du tout. Donc messieurs les hommes, on vous aime. Continuez de nous draguer de façon respectueuse comme
problème,
vous le faisiez.
Il y a peut-être un problème d'éducation tout simplement.
Mais aussi il y a ça.
Et de se dire, parce qu'on parle des ceux qui harcèlent Harvey Weinstein qui était quelqu'un de très puissant dans le monde du cinéma et d'extrêmement riche, on peut l'imaginer avec Miramax et les productions et ainsi de suite. On trouverait normal évidemment que on comprendrait en tout cas qu'il se serve de sa puissance en disant si tu veux avoir un boulot couche avec moi ou accepte de faire tel truc avec moi et tu auras le job en échange, mais je trouve aussi grave et aussi dégueulasse ce comportement là que celui qui met la main aux fesses dans la rue sans aucune promesse de quoi que ce soit derrière. C'est le comportement vient de l'éducation.
Mais c'est ça, moi je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'on n'en peut plus de régulièrement, enfin pour les femmes on le sait, hein, que ce soit qu'on mette une jupe ou qu'on mette pas de jupe, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il faut arrêter avec ça, parce que même en pantalon et en doudoune, on se fait quand même ennuyer. Donc,
Y a quand même des filles, le matin qui se demandent quel va être le parcours de leur journée pour savoir à quelle heure elles seront où, pour faire quoi, pour savoir comment s'habiller, ce qui est quand même dingue.
Non,
quoi,
mais c'est
2017.
Quand même dingue, et c'est vrai qu'on en a marre de tous ces sifflements, de tous ces bonasse, etc. On n'en peut plus de ces trucs-là. Et c'est vrai qu'évidemment qu'on ne peut rien dire. Moi, je sais qu'il y a une période, j'habitais un endroit où tous les soirs, j'avais une bande comme ça qui était sans arrêt en train de me siffler, sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi et on dit à son mec, dis donc, il y a 8 mecs en bas, là, d'1m90, ils m'ont encore traité de tepu, ils m'ont encore traité de...
Va te battre
pour moi. Tu peux y aller? Évidemment qu'on va pas le dire. Ouais. Donc, du coup, on s'habitue
évidemment,
à ça.
Évidemment, si on appelle la police fait rien en disant, mais qu'est-ce que... C'est pas illégal.
Et comme ces jeunes-là, on leur dit pas à un moment donné, attention, ça se fait pas, on se sert pas avec les femmes comme ça. Il faut les rééduquer et leur dire non, mais en fait, il n'y a aucune femme qui va se retourner quand tu vas l'appeler comme ça, je te jure.
Pense à ta mère.
Mais c'est ça qui est extrêmement ça. Difficile.
Est-ce que tu aurais aimé que ta mère, lorsqu'elle était jeune fille, se fasse insulter comme ça?
Est-ce que tu dis que ce soit Harvey Weinstein ou alors un idiot dans la rue, c'est quand même un rapport de domination. Même si il n'y a pas de promesse.
C'est pour ça que je parlais de problème d'éducation.
C'est ça, exactement. Et ça devait dire que dans leur tête, ils imaginent que de toute façon, dans la rue, dans le domaine professionnel, un homme sera toujours supérieur à une femme.
Mais voilà, exactement. Et puis, ils ne sont pas punis de ça. Personne ne leur dit non, ça ne se fait pas. Ouais. Et il faut effectivement, c'est pour ça quand il y a cette pétition.
Vous avez signé la tribune d'appel voilà, à Macron.
C'est évidemment, quand je dis, on dit un plan d'urgence, mais parce qu'effectivement, d'ailleurs, on voit bien les proportions que ça prend. Mais effectivement, il faut quand même dire aux hommes non, ça ne se fait pas. Enfin, à ce type d'homme-là, hein, parce que, encore une fois, on ne met pas tous les hommes dans la même.
Bien sûr.
Dans le même sac. Mais à ces types-là, il faut effectivement les punir et leur dire non, ça ne se fait pas, et les rééduquer, encore une fois, de faire peut-être même des formations, en tout cas, qu'on puisse l'entendre dans les entreprises, parce que c'est pas que dans le cinéma. Hein. Ouais. D'ailleurs, tout le monde, c'est partout. Hein. Parce que
ça fait vendre plus de papier lorsque l'on parle du harcèlement d'une star de cinéma.
Mais oui, parce que c'est des stars et qu'on imagine que c'est pas possible.
Que de Christine Alaconta,
ouais, il y en a plein dans les entreprises, et etc. Il faut penser à toutes ces femmes-là. Donc,
oui, parce qu'il y a toujours des hommes et des femmes, donc quelle que soit l'entreprise, il y aura forcément un rapport de tentative de domination, en tout cas.
Complètement.
Par instinct, ça parle justement aussi de la traite des femmes et du mépris des hommes pour les femmes, parce que c'est exactement par ce qui ouvre le film. Les femmes sont traitées comme des objets, comme de la chair à vendre et à rapporter, puisqu'il y a une valeur marchande qui est faite. Et alors, ce qui est le plus étonnant, ce qui est le plus choquant et ce qui existe, ce sont des femmes qui sont à la tête de certains réseaux de traite de femmes.
Mais oui, mais faut pas croire que
c'est une vieille histoire, Madame Claude.
C'est pas une histoire, c'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire de marchandise.
Oui, c'est ça. Et puis c'est effectivement, c'est
bah, non, parce que tu peux te dire aussi, je ne voudrais pas qu'on me fasse ça. Ou...
Non, mais là, ces femmes sont déshumanisées, sont des produits simplement. Que ce soit un homme ou une femme, ça change pas la donne.
C'est l'exploitation de la misère plutôt que l'exploitation de la femme, en fait.
Clairement.
Ça s'appelle Par instinct, ce film qui est tristement ancré dans la réalité, mais qui est un beau film déjà en termes esthétiques et formidablement joué. On vous l'a dit aussi bien par. J'ai cité Bruno Todeschini, mais aussi il y a Brontis Jodorowsky, Sandhya Vanda et vous, Alexandra Lamy. Alexandra est notre invitée jusqu'à 12h30. Avant de recevoir Cécile Rioux-Batista de la Commission nationale des droits de l'homme, on va évoquer quelques années et en musique, quelques années de votre carrière, notamment fin des années 80. Elle était au conservatoire lorsqu'elle écoutait Scorpion. Vous voyez quoi dans une chambre d'étudiante avec votre amoureux de l'époque? Scorpion,
c'est
quoi?
Qu'est-ce qui se passe,
quoi?
C'est oui. Bah oui, là, c'est...
Le truc qui va bien avec,
quoi. Bah, le truc où t'es assis sur la chaise et tu fais « Ah non, mais j'aimerais trop qu'Olivier vienne me demander de venir danser avec lui ce slow. Non, mais je rêve de ça. » Donc voilà, c'est... Oui.
Apparemment, comme ça, elle n'est jamais venue vous chercher.
Avec un décrochement de mâchoire.
On est à Nîmes, à ce moment-là?
Oui, on est à Alès.
À Alès.
Ouais. Attention, c'est même pas Nîmes, hein, on est dans la campagne. Hein.
Et à Alès, on dit pas tout à ses parents, si j'ai bien compris, en fait. Hein, on s'absente plusieurs fois dans la semaine pour préparer des exposés, je crois, mais en réalité, on va où?
On va au conservatoire de Nîmes.
Et on a un accent.
Ah oui, bien sûr. Hein, oui, moi j'avais un accent extrêmement fort. Hein.
Ah bon?
Quand je retourne dans le sud, je peux l'avoir, mais vraiment j'avais un accent très très fort. Et on avait une prof au conservatoire, Madame Eugénie Oliver, qui nous a appris vraiment à jouer sans
français,
accent.
À vous débarrasser de ça.
Mais on jouait sans accent. Mais dans la vie, je parlais. Donc quand je suis arrivée à Paris, j'avais toujours l'accent, mais dès que je passais un casting, en revanche, je l'avais plus. Donc j'arrivais, je dis bonjour, je m'appelle Alexandra. Alors je voyais la tête du directeur de casting qui faisait oh là là. Ah, ouais, ah oui, très très fort, moi.
D'accord,
très
ça,
très
c'est
très fort.
Ça.
Et là, tu fais, oulala. Et dès que je jouais, je l'avais plus. Donc, du coup.
Comme les Québécois qui chantent.
Exactement. Ouais, mais du coup, ça encore plus.
Il y a un sentiment de dédoublement, des fois, quand on parle avec ces personnes. Mais et ouais. Qu'il y a un changement de voix, mais immédiat.
Mais ce qui est terrible dans les accents, nous, c'est surtout les ans. Donc, j'évitais de. Dans les... Quand je parlais avec des gens, de dire des maintenant, par exemple, tous les trucs en haut.
Cette année,
c'est ça. Oui. Je vais prendre. Tout de suite.
Cette année, c'est côté Carcassonne, ouais, c'est plutôt sud-ouest.
Et alors, combien de temps vous êtes allé ainsi au conservatoire sans vous faire attraper par les parents? Parce que c'est compliqué, non? De 3 fois par semaine, de trouver un alibi.
Oui, puis alors, en plus.
C'est pas à côté, en plus.
Non, c'est à 50 km.
donc, plein d'exposés à faire.
Donc, du coup, bah, je faisais du stop, j'économisais le train pour pouvoir y aller, ou un copain qui pouvait m'emmener. Donc, c'était, ouais, c'était une. Et j'ai fait ça pendant un an. Et donc, avec mes parents qui étaient persuadés que j'allais avoir des résultats à l'école. Ouf, tous les mercredis, les samedis, ma fille, elle est à la bibliothèque. Non, mais attends, vous avez... ça va être du délire et cette année.
Donc, vous avez, construit votre, vous avez construit votre carrière sur un mensonge.
Sur un mensonge, exactement.
Et ça continue.
Et comment ils vous ont attrapé?
Et parce puis, que... un jour, mon père reçoit les notes du conservatoire, qui étaient effectivement pas trop mal, que je passais en année supérieure, etc. Et donc, mon père me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas au conservatoire? Alors qu'en plus, mes résultats, parce que là, mes parents ont eu très très peur, parce qu'en même temps, ça les a rassurés, parce que vu les notes que j'avais, ils se sont dit, en fait, elle est débile. Passer autant de temps à la bibliothèque et avoir des notes aussi minables, je crois qu'on a fait une débile, Michel. Je crois que... Et puis, en fait, ils ont été rassurés, effectivement, de
ouf,
voir que c'était...
Elle fait le mur, ça va.
Ah, et donc, j'ai dit à mon père, écoute, viens me voir au théâtre, on fait un spectacle en fin d'année, viens me voir. Si vraiment tu estimes que c'est pas pour moi et que je suis vraiment très mauvaise, tu me le dis et j'arrêterai.
Là, vous avez quel âge?
Et j'ai 16 ans.
Wow.
Et mon père vient me voir au théâtre, il a cette phrase extraordinaire, il vient aller dans les loges, je me suis dit ça y est, il va me hurler dessus, et il vient me voir, il me regarde, et il se retourne vers ma mère et il dit, je te l'avais dit, elle était faite pour faire de théâtre, je te l'ai toujours dit, j'adore.
En 2003, vous écoutiez...
Je m'en fous d'avance qu'on dise diable, c'est trop berceau, c'est pour tous les enfants d'Arc depuis le berceau. Je te parle à toi qui me comprends malgré mes fautes de langue, à toi toujours au P quand y'a trop de demandes. Vas-y crie-le si t'as la haine, dis-le si c'est la merde en bas de chez toi, mais de façon ce sera la même. Je te parle à toi qui a toujours pas trouvé de but, toi qui cherches la fin sans même avoir compris le début. Il faut briser la glace, il ne faut pas se voiler la face, défend ton nom et ta place.
Elle a quand même chanté, il faut pas se voiler la face un jour.
Ouais, c'est dingue, c'est incroyable.
Prémonition.
Ouais.
Justement, vous en pensez quoi de ce changement dans la vie de Diams et de
alors,
et qu'elle dédie maintenant sa vie
à
sa
ouais,
famille, à la religion plus qu'à son art?
Parce que moi, Diams, enfin c'est surtout même presque une dédicace pour ma fille et ma sœur, parce que c'est vrai que nous on a adoré Diams, mais et les paroles et tout ça, c'était incroyable. On était complètement fous dès qu'on met Diams, surtout ma sœur et ma fille. Alors là, elles se mettent à se lever, ça y est, c'est le feu. Et c'est vrai qu'on s'est, en plus, on s'est croisé une fois avec Diams au moment donc où elle a complètement décidé d'arrêter, où j'ai pas voulu avoir de jugement parce que ça regarde personne. Après, voilà, elle a décidé de faire ça, c'est son ça la regarde. Après, moi, il y a des choses par rapport à la burqa entière, etc., qui me gênent. Autant le voile ne me dérange absolument pas, mais à partir du moment, c'est en fait c'est ce que ça raconte derrière par rapport à la femme qui me fait mal en fait.
Bien sûr.
Et donc voilà, c'est plus des choses comme ça. Mais après, si elle a décidé de se mettre là-dedans, je...
Et le rap pour vous, c'est justement c'est pour danser, c'est pour les textes, pour le propos.
Bah maintenant, c'est vraiment les deux, parce qu'au début, je faisais pas j'étais pas tellement, j'écoutais pas beaucoup de rap. Et
donc
puis,
c'est plutôt le son et qui
ouais,
faisait danser.
Exactement, le son texte. Et puis maintenant le texte, parce que je trouve que même là, je vois MC Solar là qui a sorti son nouveau.
Il y a un nouvel album, son automne, et puis il y a le nouvel album d'Orelsan aussi que je recommande.
Voilà, qui est super. Et maintenant, on écoute vraiment les textes, et je trouve que justement dans le rap, puis il y a des textes beaucoup plus intelligents qu'avant. Ouais. C'était vraiment que voilà, un peu limite un peu vulgaire même.
D'ailleurs, je trouvais que même.
Ouais, je trouvais même qu'il y avait une image justement par rapport à la femme de ces mecs qui étaient en boîte de nuit avec des chaînes et des nanas juste avec des culs qui étaient autour d'elle et qui...
Ouais,
il y avait
vie,
une
quoi.
Image qui était pas terrible et qui venait de la femme et de l'homme d'ailleurs.
Et qui venait de laver la voiture de sport.
Exactement.
Évidemment.
Nous, on a un éléphant.
Nous, en France, vous dérange, les gars.
Nous, en France, on a un éléphant pour laver les voitures. Aux États-Unis, ils ont des jolies.
Voilà, ça s'est dit, ça s'est dit. Et pour revenir à 2003, c'est l'année de votre premier film en fait. C'est la première fois que vous apparaissez au cinéma.
En 2003, mais c'est tard ça.
Ouais. Dans Rien que du bonheur, de Denis
Parent. Je suis très très jeune.
Mais c'est combien d'années après Un gars, une fille?
Bah, tout de suite, ça s'est enchaîné, puisqu'on a démarré
c'était en 2003,
99, on a démarré.
D'accord.
Et on a fini en 2003. Et donc, voilà, j'ai enchaîné directement ce film-là qui s'appelait Au suivant, avec Clovis Cornillac, réalisé par Jeanne Biras.
Et exactement. Alors, le passage, justement, entre la. Vous parliez tout à l'heure de votre image avec Un gars et une fille et de votre nom, Alexandra Lamy, qui n'était pas suffisant à l'époque, il y a 8 ans, pour monter le film Par instinct. Comment ça. La bascule, elle s'est opérée comment?
C'est vrai qu'on a eu très très peur au départ parce que, enfin très peur, heureusement d'ailleurs qu'on n'écoute pas tout le monde, mais quand on a démarré sur Un gars, une fille, tout le monde nous a dit oh là là, une série, une comédie sur France 2, tous les soirs avant 20h, mais c'est mort. mais plus jamais tu feras rien, plus jamais tu feras de cinéma, plus jamais tu feras un film d'auteur. Enfin, on a eu un truc qui nous a fait extrêmement peur, et c'est vrai qu'en France, on est parfois un peu comme ça, on a besoin de mettre des gens dans des tiroirs, enfin, en tout cas, de leur mettre une étiquette absolument dessus. Et on a eu très, très peur, et en fait, finalement, on a été un peu, je crois, les premiers à passer de la télé, j'allais dire, au cinéma. De juste après un
Gamefi. Avec les nuls.
Avec les nuls, ouais, mais ouais. C'est vrai qu'on a, ça a été, on a été un peu les premiers les nuls, en les tant nuls, qu'acteurs.
Les nuls avaient pour eux la carte Canal+, ah, oui. Oui. Ce qui n'était pas la même chose.
C'était pas la même chose. France 2. Et on a été un peu les premiers à passer là. Et donc vraiment, ça a été, je pense qu'on a, ouais, on a été les premiers à faire ce passage entre la télé et le cinéma. Et heureusement qu'on a écouté personne, parce que pour tout le monde, c'était fini. Mais non. On a toujours besoin de ça. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée même à Paris, où j'ai démarré au théâtre privé, et tout le monde m'a dit « Ah, tu fais du théâtre privé, mais tu sais que tu feras plus jamais de théâtre subventionné. » Je dis « Ah bon, mais pourquoi ?»« Tu fais de la comédie ?»« Ah, mais plus jamais tu feras des films d'auteur. Plus jamais tu feras du drame. »
Il n'y a que des robots qui vous parlent.
Tu vois, ce truc-là, et tu te dis « Mais pourquoi ?»
Mais c'est vrai que les barrières tombent de plus en plus.
Et maintenant, ça y est, ouais. Enfin, on commence à...
Notamment avec aussi des Netflix et autres qui apportent une autre manière de faire de la fiction télé. Est-ce que vous avez l'énorme succès que vous avez rencontré avec
sur TF1, voilà, puis, une chance de trop. Après moi, le bonheur, qui sont effectivement des... Et du coup, moi, je trouve qu'effectivement, il y a des choses qui vont à la télé, il y a des choses qui vont au cinéma. Moi, par exemple, après moi, le bonheur, quand on était venu me voir il y a longtemps, on m'avait demandé de le monter au cinéma. J'avais dit, non, je pense pas, parce qu'un film comme ça, au cinéma, c'est un peu dur pour aller le voir. Ça parle cancer, enfant, mort... C'est dur. Alors que finalement, à la télé, alors que le cinéma, tout le monde va dire oui, en tant qu'actrice, pour mon ego personnel, d'avoir sans doute des beaux papiers, etc. Mais ce qui compte, moi, c'est de raconter une histoire aux gens et que ça touche un maximum de.
Mais à ce moment-là, c'est votre raisonnement, pardon, pour aller aussi sur Par Instinct en disant c'est un sujet pesant pour aller au cinéma. Est-ce que c'est.
Oui, mais il est moins lourd et je trouve que là, pour le coup, il y a avec Tanger, je trouve la façon dont elle l'a réalisé aussi vraiment comme un cinéma et je trouve que c'est quand même, même si le sujet est dur, mais là, dans Après moi le bonheur, c'était quand même. On parle de cancer.
J'entends, mais j'entends.
C'était très, 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 très violent.
J'allais au bout du raisonnement en disant est-ce qu'il y a des sujets qui
mais
sont
je trouve que justement,
cinéma,
voilà, le sujet de Nathalie, quand elle me l'a amené, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement cinématographique. Alors que justement, je trouve que dans le Après moi le bonheur, c'est quelque chose qui marche très bien à la télé et on n'a pas besoin de ce troisième décor, on n'a pas besoin de ce troisième personnage.
Il y a de très belles images, et je pense encore à la vue de la mer. Il y a une terrasse, il y a une terrasse qui donne sur la Méditerranée. Malheureusement, c'est une terrasse qui est une prison pour la jeune fille qui se fait donc enfermer et qui va se faire vendre. Mais c'est une terrasse avec vue mer. On peut même dire qu'il y a Brad Pitt dans le film.
Ouais.
Et bien, c'est.
Ouais, allez voir le film, poster, vous verrez.
C'est ça.
J'ai
ça.
Même une histoire avec lui, mais allez, je dirai rien.
Allez voir Par Instinct, un film avec Brad Pitt. Bon, il est que en poster sur la terrasse.
Ah, pourquoi tu l'as dit mais...
Parce que je voudrais pas avoir un procès. Nous allons parler avec Cécile Rioux-Baptiste. Ah, merci, Cécile, de venir à ce micro. Vous travaillez à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous êtes secrétaire adjointe de cette commission. Vous participez donc aux réunions de la commission. On parlait tout à l'heure de la traite humaine. C'est un sujet qui est extrêmement d'actualité où ça finit par être de plus en plus rare et justement, il y en aura de moins en moins.
Alors non, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et le film le montre bien. C'est une réalité aujourd'hui dans le monde et c'est une réalité aujourd'hui en France. Voilà. Et c'est...
En France, vous dire, pardon, mais est-ce que je peux employer le mot d'esclave ou le mot est trop fort ?
Alors, on peut employer le mot d'esclave. Il y a aujourd'hui des esclaves en France. Après, dans la traite des êtres humains, il y a différents degrés d'exploitation. Mmh. L'esclavage, c'est la forme la plus extrême de l'exploitation des êtres humains. Il y a des degrés moindres.
Et la première forme, c'est la prostitution ?
Alors, l'exploitation sexuelle, oui, c'est une des formes d'exploitation.
Répandue ?
La plus répandue, sans doute. Ça n'est pas la seule. Et alors, peut-être qu'en France, on a tendance à croire que la seule forme d'exploitation, la seule forme de la traite des êtres humains, c'est la prostitution, c'est l'exploitation sexuelle. Mais pas du tout. C'est celle qui est la plus visible, c'est celle qui est la mieux connue. Mais en France, on a de la servitude domestique, des petites bonnes enfermées dans des appartements qui sont exploités, réduits à l'esclavage, pas payés. Des travailleurs sur des chantiers pareil, qui sont exploités, pas payés, logés dans des conditions indignes, qui travaillent dans des conditions indignes.
Oui, là, il faut distinguer le déclaré et pas déclaré. C'est deux choses différentes.
C'est différent. L'exploitation par le travail, c'est au-delà du travail illégal ou non déclaré.
Mais comment c'est possible en France au 21e siècle ? J'arrive pas très bien à comprendre, parce qu'il suffit de traverser la rue, d'aller au commissariat et de dire il y a le monsieur là-bas qui a pris mon passeport
Si t'es sans papier, par exemple.
Quand tu connais pas la langue, tu connais quelqu'un qui la connaît. Enfin, je sais pas.
Généralement, la police, tu la fuis dans ces circonstances. Tu vas pas la voir.
Les personnes qui sont exploitées, elles sont sous l'emprise de leur exploiteur. C'est-à-dire que non seulement on leur a pris leur papier d'identité, mais on leur a dit aussi qu'effectivement, aller voir la police, c'était leur faire courir un plus grand danger, qu'elles seraient renvoyées dans leur pays, et pour elles, être renvoyées dans leur pays, c'est quelque chose.
Si le cauchemar. Être renvoyé dans leur pays, c'est le cauchemar. Ils ont fui la mort ou ils ont fui la guerre, j'entends. Mais s'ils vivent un cauchemar au quotidien, je trouverais très humain qu'ils le dénoncent.
Mais
ce
bien
cauchemar.
Sûr, mais il y en a qui arrivent à le dénoncer. Mais
qu'est-ce qu'ils risquent alors, ceux qui dénoncent ? D'être justement renvoyés dans leur pays ?
Alors, en réalité, non. C'est ce qu'on leur fait croire.
D'accord.
Mais après, en France, en tout cas, il y a des lois qui existent. Les victimes de traite des êtres humains, quand elles sont reconnues victimes de traite des êtres humains, elles bénéficient d'un certain nombre de droits, et notamment quand elles sont étrangères. Elles ont un droit au séjour, elles ont un droit à la réparation, à l'hébergement. Mais ça, elles ne le savent pas. Non. Elles ne sont pas informées. Les personnes qui sont victimes d'exploitation sont des personnes extrêmement vulnérables et on profite de leur vulnérabilité.
Quand on parle de la France en disant que ça arrive en France et que c'est fréquent en France, est-ce que la France, je ne sais pas si malheureusement il y a un classement des pays sur la traite des êtres humains, mais est-ce que la France se situe dans la moyenne des pays occidentaux qui font rêver et c'est comme ça partout, que ce soit en Angleterre, en Suisse, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, ou est-ce que la France a un sale rôle ?
Alors non, c'est de toute façon, d'une part, on ne peut pas classer les pays en fonction du nombre de victimes ou de la réalité de la traite. Ça, on n'a pas de données assez précises là-dessus. Mais ce qu'on sait, en tout cas en Europe, c'est que c'est la même chose dans tous les pays européens. Ouais, et que même les victimes de traite des êtres humains, elles circulent dans l'Europe. Enfin, les réseaux d'exploitation font passer les victimes de l'Espagne à la France, de la France à l'Allemagne.
Mais ça se passe dans les pays riches, en tout cas.
Ça se passe aussi dans les pays pauvres. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai aussi bien aimé dans le film. C'est-à-dire que l'exploitation, donc la jeune fille dans le film, elle vient du Nigeria. Elle va être exploitée au Maroc. Et après, probablement, elle va partir en Europe et elle sera exploitée en Europe. Mais on a aussi des exploitations en Amérique du Sud. Le Brésil est un pays où il y a énormément d'exploitation par le travail. Donc ça n'est pas que dans les pays développés. C'est vraiment la traite des êtres humains, c'est exploiter les gens pour en tirer une richesse. Donc on trouvera toujours plus pauvres et plus vulnérables à exploiter.
On sait combien de personnes sont exploitées humaines.
Alors, à peu près, on estime, les Nations Unies estiment à 2,5 millions le nombre de personnes victimes de traite des êtres humains dans le monde. En Europe, on estime qu'il y a 30 000 personnes qui sont victimes de traite des êtres humains. Et en France, on a un problème avec les chiffres et les statistiques. On n'est pas très bon.
Selon les organisateurs et selon la police.
C'est à peu près ça. Les associations qui s'occupent des victimes de traite, l'année dernière, elles ont recensé 2000 victimes en France. Mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg.
Et que fait la police, justement ? Comment lutter contre ça ?
Alors, la police... Et la justice,
quand en fait, la police,
oui,
la,
non,
la
je
justice,
comprends bien l'État et il y a des gros progrès qui ont été réalisés depuis quelques années. Donc déjà, il faut savoir qu'en France, la France s'est dotée en 2013 d'une loi qui pénalise la traite des êtres humains. Mais 2013, c'est finalement très récent pour quelque chose qui est très ancien. Les policiers sont de plus en plus sensibilisés à ces questions. Mais c'est encore difficile. Et puis, il faut savoir que démanteler un réseau de traite ou prouver qu'il y a traite des êtres humains, c'est quelque chose de compliqué. Donc pour les policiers, c'est pas forcément évident. Et pour la justice, la justice est de plus en plus consciente de cette réalité-là. Il y a de plus en plus de cas qui arrivent dans les tribunaux.
Mais il y a une lenteur aussi.
Est-ce que ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes de la traite des êtres humains ?
Oui, les femmes sont victimes de la traite des êtres humains à 75%. 75% des victimes sont des femmes.
D'accord.
Et un tiers des victimes sont des mineurs. Donc, on est vraiment. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en France aussi, il y a des mineurs victimes de traite des êtres humains. Donc, et peut-être des choses qu'on ne soupçonne pas, mais quand on est parisien, les enfants qui mendient dans le métro ou qui mendient dans la rue, les enfants qui vous volent vos téléphones portables dans le métro, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des victimes d'exploitation. Ils sont forcés, contraints à commettre ces délits.
S'ils ne rapportent pas suffisamment d'argent, ils se font frapper par
ce qui est dingue, parce que chez Dickens, il y avait déjà ça. Des gangs d'enfants qui sont forcés de voler.
Dans les livres de Charles Dickens, pas chez lui personnellement, tu veux dire.
Deux siècles en arrière, plus de deux siècles.
Ouais, c'est ça.
C'est incroyable.
C'est à voir que c'est tristement dans la nature humaine, tu veux dire que.
Ouais. Non, c'est ce piétinement, quoi. Je ne sais pas.
Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Ouais.
Est-ce que ces réseaux sont organisés qui c'est quoi? C'est une mafia qui gère ça et ils sont extrêmement bien organisés, ces voyous?
Alors, il y a effectivement des réseaux mafieux qui sont extrêmement bien organisés. Et,
parce que pour savoir comment lutter, il faut savoir contre qui lutter.
Tout à fait, mais c'est là aussi où c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, oui, pour une bonne part, c'est des réseaux mafieux transfrontaliers, très organisés, qui organisent ce trafic. Mais malheureusement, il y a aussi des familles, des entreprises, des petites entreprises privées qui vont organiser de la traite d'êtres humains. Et là, c'est beaucoup plus difficile à identifier.
Ouais. On n'a pas parlé, il y a aussi les trafics d'organes, malheureusement, partie de la traite des êtres humains. Est-ce que, quand on est tous évidemment émus de l'apprendre, mais c'est facile, on est au chaud bobo parisien, c'est honteux, c'est scandaleux, mais concrètement, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je pense que la première chose à faire, c'est de s'informer, de chercher à comprendre. En France, il y a des associations qui prennent en charge des victimes ou qui s'occupent de traite des êtres humains. Donc, c'est aller voir ce que font ces associations, notamment le collectif de lutte contre la traite des êtres humains.
Et les aider.
Et c'est aussi, une fois qu'on est sensibilisé à informer, c'est être attentif à ce qui se passe autour de nous. Parce que, voilà, le gamin dans la rue, on peut le croiser ou se dire que peut-être que femme...
Le gamin dans la rue, c'est une victime. Mmh. Il se fait frapper dessus tous les soirs s'il a rapporté ou pas suffisamment d'argent. Mais la réaction de tout un chacun, de le voir en tant que victime, c'est aussi de le voir en tant que danger potentiel d'être voleur. Donc on va le regarder en disant, tu es une victime, est-ce que tu veux que je t'offre à manger? Et en même temps, en se disant, est-ce que j'ai encore mon sac?
Alors dans ce cas précis, il faut pas aller voir les victimes parce que c'est plus dangereux pour elles-mêmes. Mmh. Puis de toute façon, ça servira à rien. Il faut aller voir la police, il faut aller voir une association.
Mais on se sent délateur quand on fait ça. C'est-à-dire aller voir la police en disant il y a des enfants là qui sont au coin de la rue
et qui font semblant
de mendier ou qui se font passer pour des sourds muets et en fait ils vont vous voler. On se sent délateur.
Oui, mais sauf que on est.
Et puis, qu'est-ce que peut faire concrètement la police?
Non, mais la vigilance, on peut l'avoir en revanche si on est invité chez des gens et qu'on se rend compte que la personne qui sert n'a pas une bonne petite mine et que potentiellement, je sais que c'est embêtant d'aller dénoncer la personne qui vous accueille chez elle.
Oui, quand même.
Dîner.
Surtout sur la traite de manger.
Faut pas aller manger chez Daniel Morin.
Non, voilà, je pense qu'on peut peut-être être vigilant à.
Oui, c'est ça.
Y a des signaux. Mais où est-ce que tu vas manger?
Merci, Cécile Rioux-Baptista, d'être venue. Merci beaucoup.
J'ai été invité par Nagui, moi, je pense.
Tanguy Pastureau, samedi, devant votre télé, vous avez vibrer, paraît-il, comme un petit canard intime.
Oui, Nagui, parce que nous avons tous les deux regardé la même chose, bien sûr, mais séparément, puisque vous refusez de quitter votre femme pour moi, une lubie de star, sans doute. On a regardé la victoire de Teddy Riner, 10 fois champion du monde de judo, et on a été fiers d'être français sans avoir à en foutre une rame. C'est à ça que sert le sport, c'est génial.
Il sera là midi 10, Alexandra Lamy est notre invité jusqu'à midi et demi, c'est la bande originale sur Inter. C'est la bande originale! Avec Leïla Kadour-Boudedi.
Bonjour à tous.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Albert Albou.
Bonjour.
Et notre invité, c'est Alexandra Lamy. Par instinct, le premier film de Nathalie Marchac. Je trouve ça classe d'ailleurs que vous. que vous aidiez comme ça de jeunes auteurs, réalisatrices.
Mais c'est génial les premiers films, moi j'adore.
Apporter un film.
Ouais, j'adore. Parce que c'est forcément avec le réalisateur, c'est son bébé. Ouais. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort. Je dis pas que après ça l'est non, plus, mais c'est la première fois. C'est la première fois aussi. Donc,
c'est le résultat d'années. De combat, vous avez dit, ça fait 8 ans qu'elle porte le projet.
Ouais. Donc c'est énorme. Donc
oui, c'est une grosse responsabilité aussi.
Oui, c'est un peu les jetons.
Ouais. Pardon de péter l'ambiance, mais.
Et elle a elle-même fait des études de droit. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette avocate en rôle
principal.
Elle
a quand même fait Harvard.
Ça calme.
Ok, ça calme direct.
Ça calme, ok. Donc on se dit que quoi qu'on dise, on peut avoir un procès au cul, donc on va se taire. Elle réalise en tout cas par instinct, avec de belles images et de très belles intentions de réalisation. Et de la direction d'actrice, elle savait exactement ce qu'elle voulait, où elle le voulait. Vous lui avez proposé aussi certaines choses.
Moi, c'est vrai que...
vous avez travaillé ensemble.
Alors moi j'aime bien, moi je fais partie de ces acteurs qui apprennent leur texte, vous savez maintenant ça devient rare. Il y a un truc, donc moi je travaille pendant un mois.
Hashtag non, balance ton trou de mémoire.
Ça veut dire que vous êtes souvent confronté à des partenaires qui ne connaissent pas le texte.
Et puis voilà.
Ouais, c'est un manque de respect primaire.
Ouais, parce que quand même, faut dire tout le monde quand même que c'est un vrai travail, qu'il faut travailler. Voilà, c'est un vrai métier, donc il faut bosser. Donc moi pendant un mois en fait, en gros je le lis tous les jours et je l'apprends dans tous les sens. Avec des crises de fou rire, en pleurant, en ayant peur, parce que là-dedans,
avec toutes les intentions,
parce que là-dedans, il peut y avoir quelque chose qui peut être intéressant pour un moment donné dans la scène. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le fais un peu dans tous les sens.
Vous apprenez les lignes aussi des autres comédiens?
Ah oui, au moins la fin.
D'accord. Bon,
quand est-ce qu'il t'a...
À quel moment je parle?
non, bien sûr, non, je connais tout par cœur. Et puis, je veux pas trop m'arrêter dans un style de jeu, etc. Parce que je vais être aussi libre pour le réalisateur. Parce que si moi je suis bloquée...
Malléable, ouais.
Voilà, je vais être absolument malléable. Parce que si jamais je me suis bloquée, évidemment, après c'est très difficile de casser ça. Donc je veux être complètement libre et que le réalisateur puisse, comme du chewing-gum, s'amuser avec moi. Et moi j'adore ça en plus.
Et vous êtes accompagnée ou pas pour travailler? Est-ce que vous faites ça toute seule?
Est-ce que vous êtes suivie?
Non, c'est vrai que, mais justement, parfois je me dis, il faudrait que je trouve un coach, parce que je me disais justement ça, c'est vrai que parfois toute seule, c'est toujours un peu compliqué, puis en fait, chez soi, on y arrive, et puis dès qu'on a une personne, on le dit à haute voix, d'un coup, ça change, donc effectivement, j'y pense.
L'histoire de deux destins, de deux femmes, l'une avocate, qui espère enfin tomber enceinte, et qui tombe enceinte, mais malheureusement, fait une fausse couche et perd ce bébé lors d'un voyage professionnel au Maroc, et elle croise une migrante nigérienne qui, elle, malheureusement, a été violée par l'un de ses passeurs et qui porte et qui met au monde un enfant dont elle ne veut pas. La scène dont on parlait tout à l'heure et qui est très frappante et marquante, ce sont ces deux lits dans la même chambre d'hôpital avec le bébé sur, je sais pas comment ça s'appelle, ce truc à roulettes là où on met les bébés dans les maternités.
Une table roulante.
Non. Berceau à roulettes, on va dire.
Allez, de trouver des solutions.
Qui se trouve comme ça, positionné pile au milieu des deux lits.
Elle se tourne le dos.
Ouais, exactement.
C'est le deuil, c'est la vie. Ce plan est très,
tout
très
est
fort.
Ouais, il est très fort.
Et on voit bien le boulot de David Caillé, je crois.
Ouais, magnifique. Ouais.
À l'image, réalisé par Nathalie Marche. Réalisation, il est 12h10, l'heure de retrouver Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Et Tanguy, le grand gagnant du week-end a été Teddy Riner.
Oui, et ça fout des complexes parce que moi, le week-end, je glande. Je regarde d'un œil vide Laurent Delahousse en me disant que ses mèches ont plus de vitalité que mon corps tout entier. Daniel Morin est rinté par lui 28 chroniques hebdomadaires qu'il a à fournir à France Inter, qui a le même rapport à cet homme qu'a eu la ville de Nantes aux esclaves africains au XVIIIe siècle. Le week-end devient aussi liquide que le pubis d'une ado qui verrait M. Pokora en slip.
Oh,
Thomas Wiesel, qui est suisse, est lui épuisé naturellement. Et seul un élément vraiment nouveau dans sa vie peut le réveiller, comme le fait de croiser un pauvre. Bref, nous sommes des locs. À part Leïla, qui le week-end travaille, comme la semaine, et le reste du temps, elle bosse. Vous, Nagui, qui avez l'énergie de Laurent Dutch sous cortisone. Il y a grand corps malade, vous êtes petit corps qu'à la patate. Et il y a Teddy Riner, qui samedi est allé au Maroc, mais pas pour fumer des spliffs comme nous, hein, pour tripoter la chicha de jeunes garçons du cru comme nos stars de la mode ou de la politique, mais pour remporter son 10e titre mondial en judo. Il a déjà 10 médailles d'or, plus celle en argent et en bronze. S'il les met tout au four et les fond, il a de quoi se fabriquer une mobilette. Et samedi, il a montré ses 10 doigts. C'est-à-dire qu'à partir de la prochaine, il doit utiliser en plus ses orteils. Oh. Et à la 21e médaille d'or, faire sauter le bas du kimono. Vous l'aviez deviné, Nagui, vous le connaissez bien. Teddy Riner, c'est un monstre. Il est hors norme. Déjà physiquement, c'est l'équivalent de 14 Elysée Moon. Il fait 2m03. C'est-à-dire que quand il se balade dans la rue, il a les mêmes sensations que nous quand on va au parc La France Miniature. Il pèse 140 kilos, seulement 10 de moins que l'ego de Jean-Luc Mélenchon. Son tour de bras fait 53 cm. S'il serre son chien contre lui, la bête explose. Il a pris un lynx. Et il chausse du 49,5. Hein, il n'enfile pas de pompe en vachette, il enfile directement les vachettes. Si TF1 relance Interville, il sera sur la 2. Et il en est à 144 victoires consécutives. Le matin, il se lève, fait un jus de fruits, ce qui consiste pour lui à écraser 4 kilos d'orange entre deux doigts. Puis dit à sa femme, bébé, je te laisse, je vais au championnat du monde, je fais vite. Hein, j'éclate deux géorgiens, un belge, un nippon, je prends une douche. Je fais semblant d'être ému alors que mon Dieu, mais quelle routine, la win, j'en peux plus. À 7h, je suis à la maison.
Mais il est quand même, Teddy Riner, notre fierté nationale, t'es un héros.
Mais oui, quand il a chanté la Marseillaise pour la 500e fois, il la maîtrise tellement qu'il peut la faire en polyphonie corse, en ch'ti et en vaudou haïtien accompagné d'un poulet sans tête. Eh ben, on était fiers. Hein, et il n'y a qu'en sport que ça fait ça. Quand Clara Morgan était la star mondiale du X, personne ne s'est dit « Oh yes, sur cette quintuple pénétration, on a explosé les Bulgares, cocorico !» Du temps d'Émile Louis, pas une fois on a pensé « Eh ben, dans le cul, Charles Manson !» avant de crier « Vive la France !» Mais le sport, c'est à part. Des gens courent derrière quelque chose, un ballon dans le foot, un palais en hockey sur glace, une seringue en cyclisme, une actrice à Hollywood. Nous, on mate ça en bouffant des chips, la main sur la zapette pour éviter qu'elle tombe et que par mégarde, ça passe sur Arte. On fout rien et quand les types gagnent, on est fiers quand même. Un samedi soir, j'ai regardé le match Christine Angot-Jérémy Ferrari. Personne n'a gagné à part la gêne. Et ben, je me sentais quand même fier d'être français. Autant de névrose et de mégalomanie sur un plateau, je me disais, ça nous ressemble tellement. Alors bien sûr, les stars ont réagi à la victoire de Teddy Riner. Le président Macron a écrit sur Twitter, qui est l'asile psychiatrique de Donald Trump, « Félicitations pour ce 10e titre mondial avec 10 petites médailles en émoticône. Hein, » il réussit très bien ses dessins, ça sent le passage en CE1. Florian Philippot, Farid, comme on l'appelle dans son secteur d'activité, le couscous, a écrit « Avec Riner, à tous les coups on gagne, smiley clin d'œil, plus 3 emojis, drapeau français. » Donc à côté, Macron, niveau expression écrite, c'est Rimbaud. Et Benoît Hamon, qui suit le judo, hein, plus le rugby, le foot, le golf, le billard, le curling, la crapette. Et si dans Les Anges sur Énergie 12, il y a deux mecs qui font un bras de fer, il est là aussi tellement il a plus que ça à foutre, a écrit « Teddy Riner, c'est le maître hein, ». Il faut dire que Hamon a bossé avec Hollande, donc dès que quelqu'un réussit un truc, il est bluffé. Hein, sa femme réussit une omelette, il appelle l'AFP. Quant à vous, Nagui, vous avez écrit
«
Énorme talent avec énormément de travail ». J'ai cru que vous faisiez un tweet sur moi, mais vous avez ajouté « Et un palmarès énorme ». Et là, j'ai su que ça ne parlait pas de moi. Hein, même au concours Mister Camping à Carantec en 92, j'ai fini 4e alors qu'on n'était que 3. Bref, à défaut d'être fier de moi, comme tout le monde, je suis fier de Teddy Riner.
Absolument, bravo.
La zone originale, Nagui, sur France Inter.
C'est vrai qu'il est énorme et vous aussi vous avez été impressionné par l'exploit de Teddy Riner.
Ah mais oui, mais la France entière, non? On était super fiers, super heureux.
Et vous êtes très sport devant la télé? Vous regardez les matchs de foot de l'équipe de France, par exemple? Vous regardez
le rugby, les
All Blacks et tout ça?
Non, quand c'est des gros matchs, je vais pas regarder tous les petits trucs. Mais quand c'est des gros matchs, oui, mais j'ai un papa, moi, qui regardait tous les matchs de foot. Moi, le pire pour moi, c'est par exemple, s'il y a un bruit que je ne peux plus supporter, c'est la F1 de 14h, là, le. Ça,
très bonne
tous
imitation.
Les dimanches, les dimanches à 14h, je n'en pouvais plus avec mon père qui avait toujours cette phrase qui est quand même très fort, le bruit de la Formule 1, c'est insupportable.
C'est bruyant.
Et son père qui disait toujours chut, les filles, j'entends pas la course. J'entends pas la course. Mais c'est infect comme bruit.
Vous êtes pas gentil.
Exagère, Michel.
Je t'aime, papa.
Non, mais le bruit d'un moteur pour l'avoir. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un stand de Formule 1 sur un circuit de Formule 1.
Ah, mais j'étais hôtesse quand j'ai démarré à Paris. Mais oui.
Donc vous avez
entendu
parler des moteurs.
J'avais fait un truc, je sais plus qui c'était. C'est dommage, j'ai plus le nom. Mais donc voilà, ça devait être un des champions de Formule 1. Et en fait, vous savez, il faisait très très chaud et on était c'était Manicourt, c'est ça?
Ouais.
Et donc on était devant les voitures avec
un parapluie,
etc. Mais on n'avait pas trop le droit. Donc en fait, il faisait mais genre 45 degrés, c'était
donc
un enfer.
Donc les jolies filles, vous étiez l'une des jolies filles près des Formule 1.
Ouais. Et plus on était jolie, plus on était devant. Ne me demandez pas ma place, d'accord, Nagui.
Pole position. Et comment elle a...
Et donc, on avait
comment
très,
vous devez
très
vous faire draguer aussi.
Ah non,
sur
mais on a
là.
Eu très très chaud.
Ouais, ouais,
et
ouais,
à un
ouais.
moment donné, on nous a amené une bouteille d'eau et on nous a carrément aspergé un peu comme ça. Et en fait,
c'était un concours de t-shirt
qui était le mec du champ.
Je l'ai pas dit pour une fois.
Et qui était le pilote de Formule 1, mais je me suis fait engueuler parce que en fait, il y avait de l'eau un petit peu juste devant la ligne d'arrivée.
Il a dérapé.
Effectivement, je me suis fait insulter.
On a eu l'indice. Ah ouais. Elle a renversé de l'eau au niveau de la ligne d'arrivée, donc c'était pole position.
Voilà, exactement.
Et c'était Ayrton Senna.
Oh non.
Ah, Marine Allo.
Non.
Voilà, bien joué.
Puis c'est faux.
Non, là, c'était quand j'avais mangé une petite banane. J'avais Allez hop là.
Par instinct, le film de Nathalie Marchac sort donc ce mercredi dans Deux Dodos et raconte l'histoire de ces deux destins de femmes, l'une faisant tout pour fuir la misère et la mort au Nigeria et jouée par Sanja Vanda. L'autre est une avocate d'affaires qui quitte Paris pour à peine un rendez-vous de 48 heures au Maroc. Les deux destins vont se croiser. Et les deux sont dans leur malheur aussi parce que les deux sont extrêmement tristes de la condition et la condition féminine dans laquelle elles se retrouvent. L'une perd son bébé, l'autre accouche d'un enfant résultat d'un viol. C'est deux planètes qui s'écroulent et elles vont ensemble peut-être se soutenir ou ensemble s'entraider en tout cas.
Oui, complètement. Elle, donc mon personnage par instinct, effectivement, elle qui est plutôt comme vous disiez une femme d'affaires qui oublie les lois à ce moment-là parce que elle et puis parce que vraiment elle a tellement envie aussi d'avoir un bébé et puis elle se dit que voilà, il faut sortir cet enfant-là parce que son avenir va être compliqué. Et puis cette jeune femme donc nigériane qui elle aussi au départ rejette aussi cet enfant mais instinctivement aussi c'est quand même aussi son bébé. Et donc il y a vraiment autour de cet enfant il y a instinctivement ces deux femmes qui vont se battre pour sauver cet enfant et puis aussi pour sauver cette femme-là.
Est-ce qu'elle pense à l'autre? Est-ce qu'elle pense à soi? Est-ce qu'elle pense au bébé? Quel est l'intérêt qui va être servi par le combat? Puis il y a des moments où il faut sauver sa peau, mais au sens propre du terme. Tout ça dans la toile de fond de la traite des êtres humains dont on a parlé tout à l'heure avec Cécile Rubatista et qui est très présente et comme elle l'a dit et répété d'ailleurs hors antenne, extrêmement bien reconstituée dans le film.
Oui, j'étais très contente d'ailleurs parce qu'elle est venue me voir en me disant absolument. Vraiment vous féliciterez la réalisatrice parce que c'est un travail formidable.
Et comme elle l'a fait hors antenne, on comprend bien que c'était sincère et que c'était pas fait pour faire la belle au micro. Voici, passer de la belle à la bête, c'est facile. Voici Daniel Morin avec son rêve.
C'est une catastrophe.
Quoi encore ?
C'est une claque à l'expression de la colère prolétaro-bobo française. Raquel Garrido, arrête la politique. L'ancienne porte-parole de la France insoumise préfère rester chroniqueuse chez Ardisson.
Ça rapporte plus.
Comment Jean-Luc Mélenchon prend-il cette défection ? Apparemment bien. Le leader de la France insoumise dit que Raquel Garrido est et restera son ami. Bon, ça c'est la version officielle. Écoutons maintenant la vraie réaction de M. Mélenchon quand il a appris la nouvelle. Monsieur Mélenchon, une réaction au départ de Raquel Garrido. Quelle crève ! C'est un acte de trahison, elle me quitte pour ce salopard, ce fumier d'Ardisson. Pire, elle va travailler pour Bolloré. Bolloré, étron industriel. Elle rejoint les médias du grand capital. Peine de mort pour Raquel, elle mérite d'être dépecée, découpée, hachée, grillée. Et monsieur Mélenchon, vous disiez que la sœur est votre amie. Ta gueule ! Bon, ça c'est une des news importantes concernant la politique française, mais là, news. The news, c'est la reconversion de Marion Maréchal Le Pen. La petite fille de Jean-Marie s'apprêterait à ouvrir une école. Oui, une école. Alors attention, pas de panique. C'est pas une école pour enfants où on leur apprendra que la théorie de l'évolution de l'espèce est une info bolcho-sataniste sans preuve et qu'il faut combattre. Et que le monde a été créé en 6 jours avec Adam et Ève qui vivaient au milieu des dinosaures et des caniches. Non, c'est pas ça. L'école de maîtresse Marion, c'est une école pour jeunes diplômés qui voudraient renforcer leurs connaissances en culture générale. De la culture générale avec des intervenants de prestige pour préparer les plus grandes écoles. Mais c'est moi, ce genre de news, ça m'intrigue. Hein. Et moi, quand je suis intrigué, ça me gratte. Et quand ça me gratte, j'ai la tête qui tourne. Et quand j'ai la tête qui tourne, je perds connaissance. Et quand je perds connaissance, je dors. Et quand je dors, je rêve. C'est ça. Dans mon rêve, je suis chez moi, en train de jouer au jokari dans mes WC, quand on sonne à ma porte.
J'adore.
Oh mon Dieu ! Père Albert, quel bon vent vous amène.
Figure-toi, mon garçon, que je viens d'être embauché à la Marion Maréchal Academy.
La quoi ?
la Marion Maréchal Academy, la MMA.
Et c'est bien ça?
C'est super cette école. La MMA, c'est le top. Zéro tracas, zéro blabla, MMA.
Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Et vous y feriez quoi là-bas?
Tous les jours, la messe en latin.
Étonnant.
Mais non, c'est pas étonnant. C'est un retour aux valeurs qui ont fait de notre nation une grande nation.
Quel genre de valeur?
Eh bien, je ne sais pas, moi. Un papa, une maman. Oh. Par exemple, ça, c'est une belle valeur dans ce monde en perdition.
Vous allez aussi leur apprendre les valeurs de la douche collective, avec massage entre amis, soirée mousse, dans les caves du presbytère, avec option jeu de la savonnette, c'est ça?
Oh, mais tu dis n'importe quoi. Ouais. En plus, c'est pas avant la deuxième année, le programme savonnette. Tu mélanges tout, tu me dégoûtes par moment.
Et puis le père Albert s'en est allé en sautant par la fenêtre. Je reprends ma partie de jokari. Balle de match! Je m'apprête à servir quand on ressonne à ma porte. Oh! Oh! Jean-Philippe Pétain, qu'est-ce qui vous amène?
C'est une visite de courtoisie.
Oh, bien.
Comme au bon vieux temps, quand on avait des manières.
Oui.
Je viens vous annoncer que je viens d'être embauché à la Marion Maréchal Academy. Zéro tracas.
Oui, c'est bon. Et pour quoi faire?
Professeur de délation. Ah. Je vais apprendre aux élèves à repérer les envahisseurs rastaquaires dans leurs rues, leurs immeubles, leurs quartiers.
Oui, et?
Ensuite, je vais leur apprendre à rédiger une lettre anonyme, une belle lettre écrite en bon français, pour que notre belle patrie retrouve ses racines chrétiennes, ses racines blondes, ses racines qui sentent bon la choucroute et le fumier. Rien de tel qu'une bonne lettre anonyme pour revenir à ses valeurs, des lettres anonymes modernes qui seront personnalisées.
Comment c'est anonyme personnalisé ?
Elles seront signées.
Ah, voilà, c'est moderne. Super, merci Jean-Philippe. Ah, retour à ma partie de jokari. Il était temps. En mon absence, mon adversaire imaginaire avait fait le break. Il menait 4 jeux à 2. Belle remontée, Daniel. Je suis à un point de gagner le premier set quand on ressonne à ma porte. Merde. Ah, Maréchal Ganache, ça va?
Affirmatif.
Quoi de neuf?
De neuf, il y a que je viens d'être embauché à la MMA, la Marion Maréchal Academy. Zéro tracas.
Oui, non, mais c'est bon. On est au courant. Déjà, bravo, ça m'a l'air hyper bien comme établissement. Et vous allez enseigner?
Affirmatif. La petite Marion m'a laissé carte blanche. Très blanche, même, pour intervenir.
Et vous allez faire quoi?
À la fin de chaque semaine, j'enseignerai aux deux premiers de la classe l'art de la torture.
Mais quelle horreur!
Mais quelle horreur! Arrêtez avec vos jérémiades de gaucho. On dirait Nagui. Oui, la torture, c'est pas bien. La torture, ça fait mal aux droits de l'homme. Bande de lopettes.
Ah, désolé, mais la torture est une pratique odieuse et totalement arbitraire. Le plus souvent effectuée sur des hommes qui n'ont rien fait de répréhensible.
Eh bien, je vais couper le sifflet, mon petit bonhomme. Figurez-vous que ceux qui passeront à la Gégène seront tous des individus qui le méritent largement.
Comment ça?
Seront torturés par les deux premiers de la classe, les deux derniers.
Ah, bah ça va alors. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais cette école, ça me donne envie de faire des études. À demain.
Merci, Denis Morin, Albert Algou. La bande originale de votre matinée sur Inter, c'est avec Véronique Sanson aussi. Besoin de personne. Alexandra Lamy est notre invitée jusqu'à midi et demi.
Il est venu.
on avait en studio la deuxième voix d'Alexandra Lamy qui chante extrêmement bien. Vous chantez super bien.
Oui, bah oui, oui.
Vous avez tous les, vous avez tous les tons, ouais, tous les tons.
Vous m'avez entendu là.
Tous les talents. Alexandra incarne et porte donc le film de Nathalie Marchak, Par instinct, aux côtés de Sonja Vanda, Brontis Jodorowsky, pardon, ouais. Bruno Todeschini, entre autres, Ralph Amoussou et Farida Ouchani. Vous serez également à l'affiche du Poulain avec Valérie Carcenti et Philippe Catherine. Vous l'avez déjà tourné ou pas encore?
Et Finnegan Oldfield, oui, oui, Gilles Cohen, oui, on a déjà tourné. C'est une comédie grinçante sur la politique, sur les primaires.
Très bien. Et donc, Tout le monde debout, le film
et
2,
le film de Franck
Dubosc.
Ouais, son premier film et qui sort au mois de mars.
Le 14 mars, pour être précis.
Le 14 mars. Mais avant, allez voir Par instinct. Magnifique film.
Ah non, mais là, c'est demain.
Évidemment.
C'est après-demain, pardon. Après-demain, c'est mercredi.
Il n'y en a pas demain.
Non, demain, il ne sera pas. C'est vraiment mercredi.
Non, ouais, c'est ça. Demain, d'ailleurs, nous recevrons Guillaume Gallienne, qui est en concurrence, entre guillemets, avec la sortie des films.
Mais c'est beaucoup moins bien.
Mais c'est beaucoup moins bien, déjà. Parce que je ne suis pas dedans.
Pas du tout. Ça n'a juste rien à voir.
Et parce que Guillaume a beaucoup de talent.
Et ce qui est formidable,
c'est complémentaire.
Et il peut y avoir plusieurs films. Et on peut voir plusieurs films en une semaine, surtout. On n'est pas obligé de choisir.
Comme ça.
Exactement.
Ouais, parfois, on y va pas. Mais
des excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors, désolé déjà pour tous les passeurs qui nous ont appelés à la pause pour venir témoigner de leur métier, des difficultés rencontrées. Ah, il fallait prévenir plus tôt, les gars. Mais attendez, je vais essayer de vous trouver une petite place dans l'émission de demain avec Guillaume Gallienne. Figurez-vous que Gallienne a déjà été condamné 6 fois pour maltraitance sur du petit personnel. Ça devrait aller. Désolé pour le chef-op du film Par instinct, dont le boulot était quand même salopé par Nagui et Alexandra Lamy qui ont souligné le flou de ses prises. Eh ouais,
mais
fallait
non,
pas le prendre. Eh. On ne comprend pas personnellement.
C'est un effet, tu peux pas comprendre.
Ils ne connaissent rien au cinéma, ces gens-là. Et désolé pour toutes les Léa Salamé, Nicolas Demorand, Augustin Trapenard, bref, tous les polytoxicomanes de France Inter qui auraient aimé, comme Nagui, voir dans ce film la maternité qui flotte. Eh non, c'était pas de la drogue, les gars, c'était juste de la poésie égyptienne. Oui, Joseph, faut qu'il bosse un peu encore.
Merci, Alexandra Lamy.
Merci.
Et bravo.
À vous.
Portez-vous
merci.
Bien. Par instinct au cinéma ce mercredi. Demain, il y aura également Amadou et Mariam qui feront du live avec Guillaume Gallienne, notre invité. Et tout de suite, tes carnets de campagne. Génial. Philippe Bertrand, bonjour. Philippe,
oui,
pardon pour longtemps.
Bonjour, je vous en prie. Bonjour, Nagui. Bonjour, les Lamy. Oh oui. Non, pas les Lamy, c'est nul.
Les Lamy.
Les Lamy.
Leïla Lamy.
Leïla Lamy. Ah oui, bonjour, Leïla.
C'est ça le mélange.
Mais bonjour aux autres aussi.
Salut.
Salut, bonne émission.
À demain.
Ciao. À demain.